Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Isabelle Job-Basile, directrice des États-Unis.
Oui, la pub, il se passait beaucoup de choses pendant la pub.
Des études économiques de Crédit Agricole SA. Jean-Pierre Petit, président des Cahiers Verts de l'économie, et Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens. Le chiffre est de Bercy. 10 millions de Français séduits par la retraite par capitalisation. Enfin, c'est moi qui l'appelle comme ça. Mais le plan d'épargne retraite, c'est de l'assurance vie dédié à la retraite. 102 milliards d'euros, ça a vu le jour en 2019 avec la loi Pacte. C'est simple, c'est flexible, c'est super avantageux fiscalement. Voilà, ça marche. Ben oui.
Ça marche, mais pas pour tout le monde. Le PER, ça fonctionne très bien. La retraite par capitalisation, on remarque, la France est un des seuls pays européens encore qui ne l'a pas instauré de manière systémique. Je reprends toujours les exemples de nos amis hollandais qui ont créé deux piliers en capitalisation et qui ont un taux de remplacement brut qui est de 101% quand même, donc ils gagnent plus.
Taux de remplacement, c'est ce que vous touchez à la retraite par rapport à ce que vous avez.
Nos amis les pharmaciens ont mis en place un système avec 14 piliers par capitalisation. Eux, ils ont réussi à
14 piliers,
parce que ça leur a permis de partir 2 ans plus tôt à la retraite et d'augmenter leur pension de entre 30 et 40% par mois. Donc la capitalisation s'est renseignée, on sait que ça fonctionne. Par contre, là où ça m'embête beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, donc le PER est un super outil, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes, je ne veux pas faire de pathos, mais quand vous êtes caissier chez Carrefour à 1 350 € par mois, vous ne pouvez pas faire de PER. Quand vous êtes aide-soignante à 1 500 €, vous ne pouvez pas faire de PER. Donc le fait de
cette. Un truc de riche, quoi.
Bah oui, parce que quand vous avez des taux, une proportion marginale à épargner qui est de 3%, donc en gros vous économisez à peu près 40 € par mois, vous ne pouvez pas justement vous permettre de mettre 400 € dans un produit d'épargne pour votre retraite. Donc c'est-à-dire que le refus, moi ce que j'en veux, ce n'est pas le succès du PER, c'est le refus catégorique qu'a eu le gouvernement lors de la réforme des retraites, parce qu'on a été nombreux à lui proposer directement justement de mettre en place une petite dose par capi. On l'avait chiffré, on avait fait énormément d'estimations, Sapiens n'en était pas les seuls, il y a d'autres think tanks et d'autres organismes qui l'avaient fait. On nous l'a refusé idéologiquement pour deux raisons, en disant nous on a peur qu'on nous amène le spectre BlackRock et on a peur justement que les gens aient l'impression de jouer leur retraite au loto. Et là, donc ces deux arguments qui sont complètement à chaque fois fallacieux et qui ne tiennent pas la robustesse de l'analyse économique. Là où justement, donc, on est en train de créer un système où, quand vous êtes dans la classe moyenne supérieure, eh ben, vous aurez une retraite qui sera fortement assurée. Quand vous êtes de la classe moyenne inférieure ou quand vous êtes des classes populaires, vous aurez une retraite de misère. Les prévisions du COR montrent quand même que le taux de remplacement français va baisser. Va fortement baisser. Aujourd'hui, on est aux alentours de 75%. Oui. Pour les gens qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui ou les gens de ma génération, on sera entre 50 et 34%.
Quoi?
De taux de remplacement, selon le niveau que vous êtes.
Celui qui rentre sur le marché du travail aujourd'hui, entre 50 et 34.
C'est des estimations.
Je n'ai pas concerné, Nico.
Attendez, vous allez réagir. Mais
Et donc, dans ces cas-là, quand vous allez passer votre carrière au SMIC ou quand vous allez casser votre carrière à peu près à 1,2 SMIC et qu'on va vous annoncer que vous allez avoir 600 € de retraite, mais que de l'autre côté, parce que vous avez pu avoir un PERCO ou un PER, bah, vous allez pouvoir maintenir justement grâce à cette capi-là, le fait de ne pas avoir refusé d'avoir fait de la capi de manière obligatoire et collective, je trouve que c'est scandaleux. C'est profondément criminel. Il n'est pas encore trop tard pour inverser la tendance. On a donné 14 milliards d'euros cette année aux retraités pour maintenir leur pouvoir d'achat. Ces 14 milliards d'euros-là, on aurait pu les mettre dans des outils qui existent, hein, le fonds de réserve des retraites, créé par Jospin par exemple, qui, au bout de 25 ans, stagne à 50 milliards d'encours, parce que tous les bénéfices liés aux intérêts composés chaque année sont utilisés pour financer la CADES. Donc on pourrait se
dire... d'amortissement de la dette sociale.
On pourrait se dire, on sanctuarise un des produits qui existe aujourd'hui, ou alors...
On l'alimente.
Ou alors on généralise préfonds, généralise ce genre de fonds-là, et on alimente avec au lieu d'augmenter justement les pensions via la réindexation, on alimente ce fonds-là et on le redistribue de manière horizontale à tous les actifs. Parce que là, je trouve que c'est une je suis très content que ça fonctionne, mais je m'étonne beaucoup que ça ne fasse pas plus débat dans le dans
la classe politique. Alors, les Allemands ont mis en place un fonds souverain.
Oui, c'est 10 milliards, mais c'est très bien.
Eh non, ils commencent à 12. Ils commencent à 12 milliards par emprunt.
Bien sûr, mais après, ça va monter en puissance. Ouais.
Et ça n'est pas l'argent des salariés qui a. C'est de l'argent public, exactement comme si on avait, par exemple, décidé que les 14 milliards d'indexation des pensions, on entamait un fonds. J'achète la démonstration, objectivement. Bon, vous voulez. Non,
mais c'est fondamental le taux de remplacement, parce que on parle toujours de
entre
l'âge de la retraite.
Entre 50 et 34% en 2070. Hein.
Ouais, enfin, c'est d'accord.
J'avais pas en tête le 34, j'avais en tête le 50.
Bon, enfin, 50 déjà, c'est.
C'est dans un scénario particulier.
C'est le salaire, salaire net médian, c'est extrêmement faible.
Ah oui, c'est extrêmement faible.
Sachant que c'est sur les 25 premiers. Enfin, si on maintient ce système-là, d'ailleurs, ce qui n'est pas garanti. Parce que là, ça ressemble un peu au taux de remplacement de la Social Security américaine.
Oui.
Taux de remplacement d'un retraité. Mais aux États-Unis, la retraite moyenne des Américains, ça vient principalement de la Social Security. C'est-à-dire toutes les classes populaires et moyennes.
Oui, ça reste un gros morceau.
Dépendent. Voilà, c'est pour ça que le taux d'emploi est assez élevé, hein, voilà, aux âges supérieurs. Mais alors en dessous, c'est fondamental parce qu'il y a très peu d'offres. Hein. Il y a les individual retirement accounts, il y a les fonds de pension évidemment, mais qui sont pas plus avantageux que ça. Enfin voilà. Et donc c'est une situation assez logique, hein, vers laquelle on va. Hein.
Est-ce qu'on est bien d'accord?
Baisse des taux de remplacement.
Il y a ce chiffre de la semaine dernière de l'étude de l'Institut de l'épargne immobilière et de l'immobilier foncière. Sur 40 ans, la bourse est de loin le meilleur déplacement.
Bien sûr.
C'est indiscutable.
Sûr, sur 100 ans aussi.
Sur 100 ans. La Banque mondiale avait dit c'est 7% en moyenne par an sur le 20e siècle.
Oui, c'est la hiérarchie des rendements qui veut ça de toute façon.
Alors, je veux juste dire un truc. Aux États-Unis, sur lesquels on a le plus de données, sur 50 ans, grâce à Robert Shiller, on a 6,5% de rentabilité nette réelle. C'est-à-dire dividendes réinvestis avec les dividendes et net d'inflation. Ça rapporte 6,5%. Il n'y a aucun placement qui rapporte aussi bien. C'est évident. Ah,
ouais. Donc il faut aller placer l'argent.
Mais oui, mais
des retraites aux
États-Unis. J'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas un peu de raison qui s'installe.
Mais oui,
dans
mais en plus,
parce qu'on peut regarder. Alors d'accord, ils ont de l'argent, les 10 millions là. Mais le débat public, c'est Haro sur la CAPI. Qu'est-ce que font tous ces gens qui font de l'assurance vie et du PER si c'est pas de la CAPI?
Déjà, il y a ça.
Ou du logement.
Il y a déjà ça. Et puis, on a dans le public, on a déjà de la retraite par CAPI, que ce soit préfonds ou c'est volontaire, mais aussi les RAF.
Les RAFP,
qui, où là, c'est les primes qui sont obligatoirement mis en partie sur des fonds de CAPI. Et ils en sont très contents. Et les syndicats sont les administrateurs de ces fonds. Donc, enfin voilà pourquoi on refuse au privé des choses que
chaque fois
il faut que les jeunes investissent dans les PER, mais qu'ils investissent dans les actions, hein, parce que voilà.
Ah ben, si un PER, il cohabite comme l'assurance vie entre fonds en euros ou unité de compte.
Alors, ah oui, mais
le PER. Si on parle du PER, la question, enfin le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que ceux qui investissent dans le PER sont déjà d'un âge avancé, donc déjà ont plus de 50 ans. Or, c'est pas forcément la cible qu'on aimerait avoir. On aimerait avoir des plus jeunes sur le PER. Et effectivement, ce qui fait la différence et ce qui fait que ceux qui investissent, c'est ceux qui bénéficient surtout de l'avantage fiscal. Donc,
bah oui.
Parce qu'ils ne vont pas le liquider.
Et puis,
l'épargne pour la succession.
Et puis, plus tu payes d'impôts sur le revenu, plus c'est intéressant.
Plus on est sur la tranche.
À côté de ça, moi, il y a un chiffre qui m'a frappé. C'est un chiffre BPCE, l'Observatoire. Plus d'un jeune sur trois entre 18 et 24 ans met de l'argent de côté tous les mois. Moi, quand j'avais 22 balais, je ne mettais pas d'argent de côté, je ne pensais pas à la retraite. Quoi. Et aujourd'hui, c'est un souci.
Mais il y a un dernier point sur quand les salariés se rendent, enfin, si ceux-ci se rendaient compte, maintenant c'est plus possible avec la nouvelle fiche de salaire simplifié, que 28% de leur création de richesse brute, de leur rémunération brute mensuelle, part pour financer un système auquel eux n'auront pas le droit, je pense qu'il y aura on aurait beaucoup plus de mouvements sociaux liés à ça. Et bon, là on ne pourra plus le voir avec la nouvelle fiche de paye simplifiée. J'espère pas.
On va simplifier la fiche de paye pour planquer la réalité de la cotisation.
Je trouve ça dommage de ne pas voir qu'un tiers, enfin 28% de sa rémunération, justement, n'est pas pilotable et capté chaque mois par un système auquel les gens qui cotisent n'auront absolument pas le droit.
Ce qui c'est extraordinaire de voir d'ailleurs qu'il y a des trucs qui, quelquefois, mettent tout le monde dans la rue, et des trucs hallucinant et jamais personne ne bronche.
Et bien sûr. En plus, avec la CAPI, vous pouvez. Enfin, il y a des exemples qui l'ont montré. Vous, si jamais on avait un système en capitalisation, on n'aurait plus de. Enfin, s'il est bien arbitré, bien piloté,
oui,
etc.
Ça bien piloté.
Bien financé, il faudrait qu'on ait un encours qui atteigne quasiment 2000 milliards pour que ce soit vraiment utile. Mais on pourrait avoir. On n'aurait plus de débat sur l'âge de départ en retraite. Ça n'existerait plus parce que le système se pilote de manière interne. Et vous avez, par exemple, au Danemark ou aux Pays-Bas, vous avez la possibilité de pouvoir partir plus tôt, d'accepter vous-même une propre décote ou alors de surépargner pendant quelques années, de surabonder votre fonds pour dire, moi je vais partir par exemple à 58 ans, 59 ans.
Et donc je mets plus tous les mois.
Ça donne une liberté.
Exactement. Dans un système par répartition, vous êtes soumis justement aux affres de la démographie. Donc dans ces cas-là, on est obligé mécaniquement d'augmenter chaque année le âge de départ en retraite. Et si on continue comme ça, on sera les pays d'Europe, quand on fait quelques simulations, en partant à 71 ans en 2050, alors que tous les autres seront à la retraite à 58 ans. Je caricature, mais c'est un peu ça. Ouais. Avec des pensions qui seront plus faibles.
Moi, ce que je conseillerais quand même aux jeunes qui nous écoutent, là, les jeunes trentenaires ou les jeunes quadras, c'est de faire des boulots intéressants et
parce qu'ils vont y rester
de continuer
longtemps.
À bosser.
De continuer.
Mais non, mais c'est, la retraite, c'est un fait. Enfin, c'est
oui,
un phénomène historiquement daté.
Pas, bien
non, mais parce que tu peux faire des boulots vachement intéressants et je mets de côté la maladie et tout ça, mais fondamentalement aujourd'hui, vous voyez, il y a une appétence de la part des jeunes pour le télétravail, pour les métiers flexibles, etc.
Mais il n'y a pas trop de rapport avec la retraite là.
Si, parce que faut arrêter de penser qu'on va stopper à un moment donné l'activité professionnelle. On stoppe pas quand on a des boulots un temps soit peu intéressants.
Quand on fait un boulot passion, pas. On stoppe pas.
Non mais passion sans être dans
ça compte. Moi je suis pas le gars qui pense tous les jours à la retraite ou aux vacances parce que
tu vois bien, t'es passionné
tous les matins c'est kiffant.
Tu te lever à 2h du mat si
t'étais 30, pas monsieur.
3h du matin si t'étais pas un minimum passionné.
Ah bah évidemment,
c'est ça qui compte,
26 ans que ça dure.
Que de fantasmer ou d'espérer ou d'angoisser sur la retraite future.
Oui, mais le problème Jean-Pierre là-dessus, je suis
on avance après.
Mais le problème c'est qu'on a un mal-être au travail qui augmente de plus en plus. Pourquoi? Je parle pas du phénomène de bullshit jobs qui avait été mais aujourd'hui on a des défaillances du management qui sont de plus en plus grandes en France, on sait pas manager et l'indicateur le plus explicite c'est quand même le taux d'absentéisme. On a un taux d'absentéisme qui n'a jamais été aussi élevé dans ce pays, qui est parmi un des plus élevés d'Europe. C'est pas parce que les Français sont des fainéants, c'est parce qu'en fait aujourd'hui non seulement parce qu'on ne forme plus, les actifs depuis 2018, on ne sait pas manager et on n'est pas capable de leur offrir des évolutions de leur carrière. Et dans ces cas-là, on se sent mal et on n'a qu'une envie, effectivement, c'est d'en sortir.
Et on a un taux d'emploi qui fait qu'on fait porter, comme il est plus faible que dans le reste de la zone euro, on fait porter la pression sur un nombre plus réduit.
Parce qu'on ne peut même pas du coup augmenter les salaires en parallèle.
J'ai un message de Sibylla qui me dit: je suis né au début des années 64 de la fonction publique, le taux de remplacement à 65 ans sera de 50%, je suis pour la capitalisation, ma génération aura beaucoup payé pour les autres, mais personne ne voudra payer pour la mienne.
Si elle a travaillé dans le secteur public toute sa vie, ça m'étonnerait qu'elle soit.
Oui, parce qu'ils ont normalement des taux de remplacement un peu plus élevés.
Oui, mais ça, c'est le taux de remplacement sur sa partie justement répartition, et il y a la partie CAPI qui
vient. D'accord. Jean-Pierre,
je passe à Total, l'apprentissage, j'espère qu'on aura le temps. Total Energy, donc ça fait un peu l'effet d'une bombe, Pouyanné qui dit: bon, je reste installé à Paris, mais je vous préviens, je vais aller me coter aux États-Unis à Wall Street en cotation principale. Alors après, il n'intégrera pas le Standard & Poor's 500, car pour ça, il faut être domicilié sur le sol américain. Il a clairement dit que non, le siège resterait à Paris. Quelles leçons, quels enjeux vous voyez derrière
D'abord, c'est intéressant pour définir ce que c'est que la nationalité d'une entreprise, en fait. Parce qu'on la définit souvent par le siège social, par les dirigeants.
Par l'histoire aussi.
Oui, par les actionnaires, par la répartition des chiffres d'affaires, important, par la structure de l'actionnariat ou la structure du salariat de l'entreprise. Or, Total, c'est pas du tout évident. Elle fait 20% du chiffre d'affaires en France. Elle doit avoir un tiers de ses salariés qui travaillent en France, puis qui sont pas français d'ailleurs forcément, mais enfin qui travaillent sur le territoire français. En termes d'actionnariat, je crois que ça tourne autour de 20-25% les Français. D'ailleurs, c'est souvent de l'actionnariat salarié d'ailleurs, parce que
8% c'est des salariés.
Alors, du point de vue des dirigeants,
française, oui, c'est une vingtaine
des dirigeants. Alors Pouyanné, effectivement, le CEO, mais même quand on regarde le COMEX, c'est très français. Voilà, donc ça, c'est une entreprise française. Et du point de vue du siège, formellement, effectivement, c'est une entreprise française et européenne. Mais ça, c'est une première, première
chose. Elle a le statut d'entreprise européenne, d'ailleurs. Voilà. Mais de droit français, contrairement à Stellantis, qui est de droit néerlandais.
Les deux plus prestigieuses entreprises françaises, d'ailleurs, LVMH et Total, sont des entreprises qui sont françaises par les dirigeants, par le siège social, etc. Mais quand on regarde les autres critères, sauf pour l'actionnariat dans le cas de LVMH, c'est devenu des grandes boîtes internationales.
Ça s'appelle une multinationale, ce que vous décrivez, Jean-Pierre.
Oui,
c'est une multinationale.
Oui, mais ces entreprises qui historiquement sont très françaises, qui se sont développées, qui ont réussi d'ailleurs.
Si elles ne s'étaient pas développées, elles ne seraient plus là.
D'ailleurs, c'est ce qui est fou, c'est que c'est les entreprises. Ben non, parce que tu peux rester à l'échelle nationale.
Ah oui, tu peux rester une PME. Oui.
Enfin voilà, il y a encore des marques qui restent et qui sont principalement françaises ou européennes. Ça, il y a pas de sujet. Les deux entreprises qui ont le mieux réussi, c'est deux entreprises les plus critiquées en France par une partie de la classe politique. Et indépendamment de ça, il y a la multicotation ou la cotation internationale. Et ça, ça a du sens pour Total Energy. Pourquoi ? Bah parce que si tu te fais coter à New York, et il est bien évident que tu as accès à un marché. En termes de liquidité, de profondeur, de diversité d'investisseurs, sans commune mesure. Et
d'ailleurs, Bruno Le Maire a dit que c'était lucide de la part de Patrick Pouyanné.
Bien sûr.
Il tient à la nationalité. Il est déjà coté, non, en partie. C'est un Alors, peu représentatif.
Il a un ADR.
Et puis, en termes de visibilité. Visibilité, pas seulement pour les investisseurs, pour tous les stakeholders, y compris pour la main-d'œuvre qualifiée, pour la réputation de la boîte, etc. C'est fondamental d'être coté. Je rappelle.
Donc, il a raison.
Bah oui,
c'est un certificat de dépôt.
Et ce d'autant que c'est alors si on regarde dans les investisseurs collectifs, les investisseurs institutionnels, évidemment avec nos normes environnementales, nous évidemment la part européenne s'est effondrée, la part américaine risque de se renforcer en plus si jamais Trump est élu, parce que lui il élimine quasiment toutes les normes environnementales le 5 novembre prochain, et ben ça va se renforcer. Et donc alors ce qui est terrible à dire là, c'est que c'est pas neutre, parce qu'en général quand t'es coté à titre principal dans une place financière données, t'es quand même astreint aux règles de gouvernance, aux règles déontologiques, aux règles comptables, mais aussi à la mentalité des investisseurs. Et les investisseurs américains, les normes européennes sur le oil and gas, sur le tout ce qui est émission d'énergie fossile, franchement, ils s'en foutent pas mal par rapport à nous, mais tout simplement à cause de la réglementation. Et ça risque de changer. Et c'est ça l'effet
pervers. Qu'est-ce qui risque de changer ?
Ben, parce que si Total était complètement coté exclusivement aux États-Unis, les pressions actionnariales qui sont très forte aux États-Unis comme ailleurs, eh bien elle pourrait pousser Total à renoncer à ses efforts de diversification vers les énergies renouvelables. Ah bah oui.
Au profit, oui.
Mais moi j'ai envie de vous dire, en essayant de tirer des leçons de cette histoire, clairement le 1er mars on a durci le label ISR, ce qui fait qu'aujourd'hui Total n'est plus éligible, ce qui fait qu'un fonds ISR en Europe, en France, ne va plus acheter mécaniquement du Total.
Tout le monde sait que
Mais la leçon de l'histoire, Jean-Pierre, est-ce que ça veut dire que le coût des rachats d'actions, c'est juste du... On renonce à cette histoire parce qu'évidemment, c'est un repoussoir. Est-ce que les normes vertes, c'est un repoussoir ? Donc, est-ce qu'on suit les pays qui décident de mettre tout de côté au nom du pur business, comme les États-Unis de Trump, ou est-ce qu'on décide que, tant pis, c'est le prix à payer pour... une bascule vertueuse dans un monde plus vert. Je sais pas, il y a un moment.
Mais non, ce sera pas une bascule vertueuse. Ce sera nous les gros losers.
Ah ouais, d'accord.
Parce que les grands vainqueurs, ce sera qui ? Ce sera dans cette bataille de l'énergie fossile et même de la transition vers les énergies renouvelables. Ce seront les États-Unis, la Chine et les autres.
Ce sera la bataille.
Et dans nous,
la
transition. On aura moins de capacité. Bah oui.
Parce qu'il y aura les sous pour.
Bien sûr. Mais tout le problème des normes environnementales, c'est que de toute façon, c'est un problème de politique publique efficiente, ce truc-là. Et c'est extrêmement complexe. D'abord, tu travailles pour les générations futures qui votent pas, ou qui sont pas là. Et pour travailler de façon efficace, faut travailler de façon en complète coopération internationale. Et manque de bol, la coopération internationale recule. Donc c'est tout le problème qu'illustre Pouyanné parce que lui, il peut pas réduire la production d'énergie fossile, tout simplement parce que la demande ne se réduit pas, tout simplement.
Ah, la demande ne se réduit pas.
Ben voilà.
Mais c'est vrai que les coûts de réglementation vont faire que ça va mettre un coup, pour le coup, à la compétitivité en Europe, en termes relatifs. Et les entreprises s'en plaignent de plus en plus en disant avec la CSRD. Qui arrive.
Là, le devoir de vigilance. Vous avez vu le devoir de vigilance validé par le Parlement. Mais c'est très bien,
c'est de la bureaucratie. C'est une extrême.
T'imagines, là, t'as ta CSRD.
Ça veut pas dire qu'on veut pas, qu'il faut pas, bien évidemment.
Ben oui. Non, mais toutes les normes.
Mais tout le monde est d'accord sur les objectifs, la main sur le cœur. Mais
c'est la manière d'y aller, comment y aller.
Et une fois d'ailleurs,
à quel rythme ?
J'ai écouté une de tes émissions, là, des débats des experts, vous parliez de la surréglementation.
Tout le temps, on en parle.
Tout le temps,
hier,
tout le temps. Mais il ne faut pas oublier que derrière la surréglementation, il y a des lobbies. Il y en a qui vivent de la surréglementation.
Bien sûr qu'il y en a qui vivent de ça.
Il y a des cabinets d'avocats, il y a des entreprises de certification, il y a des fonctionnaires qui vivent de ça, il y a des politiques qui vivent de ça. C'est ce que disait Stigler, le prix Nobel d'économie de 1982, disait, il y a un lobby de la régulation. Et il est très puissant. Chez vous, il est très puissant. Voilà.
Mais bon, vous avez vu là, on a la...
j'y crois pas.
Moi, la CSRD, il y a des boîtes qui m'ont raconté ce que ça voulait dire en termes de coûts, d'embauche, de temps.
Bien sûr.
Là, il y a le devoir de vigilance. T'es une multinationale, tu dois sur l'ensemble de ta chaîne de production pouvoir apporter les preuves que toutes les règles sociales, environnementales ont parfaitement été respectées.
Ça me rappelle un peu ce qui s'est passé sur Ça, c'est ce qui s'est passé sur la compliance. On a vu sur les entreprises le coût de la compliance et le nombre. Enfin, on a vu les équipes de compliance énormément grossir compte tenu du fait. Voilà. Et on va avoir la même chose sur la partie environnementale. On va avoir effectivement un coût qui va prospérer ces prochaines.
Alors, sachant qu'on ne sait pas exactement, il y a pas d'homogénéité.
Et en plus, voilà.
Et on mélange ESG. Qui n'ont rien à voir entre eux, ce qui complexifie.
C'est environnement, social et gouvernance.
Voilà, mais ça n'a rien à voir entre les trois. Et il y a un vrai problème d'homogénéité, de définition de label, etc. Ouais.
En fait,
donc on est dans le flou.
Puis en plus, quand on commence à s'attaquer ensuite à la biodiversité,
Il faut écouter Guillaume Poitrinal qui construit des immeubles en bois, vous expliquer le truc qu'on marche sur la tête. Ouais. Quoi. Donc en fait, Jean-Pierre m'explique que c'est très bien, on va être super vert, super vertueux et on va être loser à l'arrivée. Voilà.
Ben, on est déjà loser.
Vous avez vu le rapport Tirole qui dit de toute façon l'Europe ce sera éventuellement un continent mid-tech quoi.
Non mais j'ai pas eu besoin de le rapport Tirole.
Mais non mais je sais bien. Mais bon.
Moi j'observe le truc depuis 20-30 ans.
Ouais,
l'histoire,
moment,
est déjà, l'histoire est déjà écrite depuis
faut
longtemps.
Il faut faire des choix quoi. Qu'est-ce qu'on fait là? On a 6 minutes 30. Bayavi. Un bout de Bayavi, Erwan Tison. Juste pour vous dire ce que racontaient c'était les Échos. Qui visiblement avait des infos, donc il s'agit de faire payer les gens qui ont des revenus qui dépassent le revenu éligible au logement social. Et donc un supplément de loyer devrait être exigé d'un locataire HLM lorsque son revenu dépasse de 1 euro le plafond. Aujourd'hui, on va jusqu'à 20%. Il y a 80 000 foyers qui payent un surloyer. L'Union, 80 000 foyers payent un surloyer selon l'Union sociale de l'habitat. Avec cette réforme, il y en a 120 000 de plus. Ça va être, ça politiquement, ça va faire hurler, Erwan. Ça y est, antisocial. Après la réforme du chômage,
vous êtes social. C'est très social. Faut se dire quand même qu'il y a plus de 2,3 millions de personnes qui attendent un logement social aujourd'hui en France. 70% de la population est éligible à un logement social. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui la moitié des personnes qui appartiennent aux deux premiers déciles de revenus, donc en gros ceux qui gagnent moins de 1 200 euros par mois, qui sont obligés de se loger dans le privé parce qu'ils n'ont pas de place dans le logement social. En parallèle, un autre chiffre que nous on avait calculé, vous avez aujourd'hui 130 000 personnes qui vivent dans le logement social qui gagnent plus de 80 000 euros par an.
Combien 130
130 000 personnes.
130 000 au-delà de 80 000 par an.
Et la raison est très simple, c'est que soit ils sont rentrés à une période, par exemple, vous faites 10 ans aux États-Unis, vous rentrez en France, on vous demande vos revenus en France, vous n'en avez pas, donc du coup vous êtes éligible. Parce que du coup, vous présentez zéro de revenus sur ces deux dernières années en France. Ou alors, vous l'avez eu dans les années 80, vous êtes passé à la retraite depuis.
Ces conditions-là, on est éligible?
Pour l'instant, oui.
J'ai fait un pactole d'enfer aux États-Unis, mais j'ai gagné zéro
c'est
en France.
Patrimoine, c'est pas ton revenu.
Exactement. On ne regarde pas les patrimoines des gens.
Et ils ne doivent pas être une majorité quand même.
Non, mais il y a 130 000 personnes.
Et quand 130 000.
T'as peut-être pas envie d'aller.
Non,
130 000 ménages, c'est pas l'épaisseur du
trait. Et la question du. Alors, on parle du surloyer. Le surloyer, c'est très bien. 20%, mais c'est 20% sur un logement, un loyer qui est 30% en dessous du prix du marché. Donc en fait, vous allez payer 30% du prix du marché, vous allez payer 36%. Donc là, c'est pour ça que la mesure de dire on vous met dehors si jamais vous ne respectez plus les critères, je pense qu'elle est très bien. Mais il faudra aller beaucoup plus loin. Nous, c'est une proposition qu'on formule à notre observatoire immobilier, c'est de dire on supprime le logement social et on passe au ménage social. Au lieu de subventionner.
Il faut expliquer, parce que c'est assez passionnant, mais il faut bien comprendre de quoi il s'agit.
Au lieu de subventionner la pierre qui, du coup, fige les gens sur un territoire et qui font que les gens éligibles sont obligés de se loger là où il y a des logements sociaux, qui en plus la plupart du temps sont éloignés des zones d'activité, et on subventionne le ménage et on accorde l'avantage loyer au ménage directement, versé aux propriétaires et non pas aux locataires.
Pour éviter le ménage paye une partie dite sociale.
C'est ça.
Et ensuite, le locataire est compensé
par
la puissance publique.
On passe de 2,3 millions de logements sociaux à 36 millions parce que vous pouvez vous loger partout au même tarif que dans le social.
Oui, comme quoi. On peut faire des propositions intéressantes et créatives.
Et ça se fait à budget constant.
Et voilà. Et ça se fait sans effectivement pénaliser les finances publiques.
On a fait récemment avec l'Institut Sapiens une petite vidéo YouTube en direct sur la question du logement et j'étais avec eux. Et ils ont vraiment des propositions. Passer du statut de logement social au ménage social, il y a un sujet.
Et parce que même sur la mobilité du travail, aujourd'hui...
Il y a une écoute politique sur ça.
Ben ça, c'est pas mon point.
Et en plus, les ghettoisations...
L'écoute politique, on trouve que l'idée... On nous dit que l'idée est très bonne, mais que ça se valide par une élection présidentielle. Donc ça se valide pas par décret.
D'accord.
Mais c'est, regardez, aujourd'hui, vous avez un logement social, je dis n'importe quoi, dans la banlieue de Strasbourg. On vous propose un boulot à Angers. Vous n'avez aucun intérêt à bouger.
Bouger, bien sûr. Vous avez,
Non, mais c'est vraiment intéressant.
Ça évite aussi ces phénomènes de ghettoisation. Ça permet de plus étaler.
C'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de propositions à l'Institut du Sapiens. La constitution d'un seul et unique statut de bailleur privé, qui est aussi, c'est hyper compliqué comme sujet. Pour préparer, là, je suis rentré dans des trucs que j'avais jamais vus, franchement. C'est déjà le fait de rentrer dans l'histoire, de réaliser, c'est aussi compliqué que ça aujourd'hui. Ouais. Il y a autant de trucs différents en fonction que c'est du neuf, de l'ancien. Waouh.
Non, mais c'est bien d'apporter aussi du chiffre. Oui. Pour objectiver, ces questions, je trouve ça vraiment intéressant et nécessaire d'objectiver au travers de chiffrages, comme vous le faites. Je trouve ça
tout ça sera dans la loi du ministre Kasbarian qui sera présentée le 6 mai. En Conseil des ministres.
C'était une des lois les plus ambitieuses sur le logement qu'on ait eu ces 10-15 dernières années, quand même.
Vous y croyez ?
J'ai envie d'y croire, en tout cas, mais nous, quand on regarde les annonces et quand on regarde les volontés, de toute façon, on n'a pas le choix. On est en train de vivre une crise
de logement,
qui va devenir systémique, parce que le logement dépend énormément de choses dans notre pays. Si on ne la résout pas maintenant, les 0,2 de croissance dont on se félicitait au début, on ne les aura plus du tout pendant quelques années, parce que le logement détermine beaucoup de choses dans notre pays.
La mobilité.
Ça va râler sur la réécriture de la loi SRU. Parce que lui, il veut qu'il y ait une partie de logement social et une partie de LLI, les logements à loyer intermédiaire. Et toute la partie très attachée au logement social dit « vous allez mettre la moitié de la loi SRU pour des gens qui ont de l'argent, et alors ceux qui n'en ont pas, ils vont être dans une difficulté encore plus compliquée qu'auparavant. » On a 1 minute 16, c'est compliqué de faire autre chose. Muriel Pénicaud qui veut qu'on... Je commence à penser que c'est vrai, qu'il faut peut-être resserrer un peu le dispositif de l'apprentissage.
C'est pas serré, c'est ciblé.
Ciblé, parce que 20 milliards par an, c'est beaucoup. Quoi. Oui. 23 cette année, quand même. L'idée qui... Tous les étudiants jusqu'à Bac+5, toutes les boîtes jusqu'à...
Ça. Je pense que ça a été... on a eu un bon processus d'amorçage, et ça a très bien fonctionné. Voilà, la question se pose, comme c'est quand même très coûteux pour les finances publiques, au moment où on a quand même des questionnements sur les trajectoires de déficit, de se dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen de cibler en gardant, ça permettrait de conserver l'efficacité sans casser.
Parce que pour une fois qu'on a un truc structurel qui fonctionne...
Non, mais ça marche, et surtout, il faut dire que ça marche et que ça a très bien marché. Mais peut-être que un ciblage n'enlèverait pas l'efficacité du dispositif.
C'est ça. Je vous ramène les chiffres de Bruno Coquet. J'ai vraiment foi dans les travaux de cet économiste de l'OFCE sur ces sujets-là, et c'est un vrai expert. 20 milliards d'euros en 2022, disait-il, en juin 2023. Eh bien, si on réorganise de manière intelligente, pas à la hache, le dispositif, on peut économiser 8 milliards d'euros avec à peu près la même dynamique, dit-il.
Juste un tout petit point. Oui, évaluons juste de manière ex-ante, avant de toucher à ça, les effets. Il y a deux chiffres sur l'apprentissage des Bac+5. Vous avez 20% des NITS qui sont des Bac+5. Là, une étude de Nathalie Chusseau qui avait été publiée là-dessus.
20% des NITS sont des Bac+5.
En fait, ils sont considérés comme NITS parce qu'ils sont, vous savez, cette fameuse période où j'ai fini mon diplôme et je cherche mon premier boulot. Et donc, du coup, ils sont plus en emploi.
On les met dans les NITS.
Ils sont dans les NITS. Étude du Cercle Économiste sur le sujet, il y a 20% des NITS qui sont considérés là-dessus. L'apprentissage, nous, on le voit dans l'Université de Strasbourg, par exemple, où on l'avait expérimenté il y a quelques années. L'apprentissage et l'alternance, ça nous permet quand même de diminuer de 6 mois l'entrée dans le premier emploi. À un moment où on veut augmenter le taux d'emploi des jeunes, ça a un coût aussi, il faut faire peut-être le
rapport. Il ne faut pas être idéologue sur le sujet, il faut effectivement regarder de manière très pragmatique.
Mais effectivement, c'est un vrai succès en matière d'insertion. Bon, j'ai fini, je suis dans le rouge, là, comme les finances publiques.
Mais encore une fois, comme disait Jean-Pierre avant, attention, pour le dogme de 3%, ne cassons pas ce qui fonctionne.
Ah oui, enfin, ça, je suis d'accord.
Parce que là, on a quand même créé quelque chose de très puissant, il faut surtout pas faire l'effet inverse.
Pas être dogmatique.
Je suis étonné par votre histoire de NITS, là. Un Bac+5 pendant une période qui se retrouve dans la catégorie NITS avant d'en sortir probablement.
C'est temporaire,
Moi, j'avais plus l'image que c'était vraiment des décrocheurs, les NITS.
Non, c'est non.
Employment.
C'est le plus gros du bataillon.
Education and training. OK.
Nathalie Chusseau avait fait une très belle étude pour le Cercle d'économistes là-dessus sur la typologie. Alors 80% effectivement, c'est
On a fini, Isabelle Job. Bon, c'était le printemps, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Voilà. Isabelle Job-Basile, Jean-Pierre Petit, Juan Tison, rendez-vous demain à 9h.